Voilà, je vais reprendre après l'intervalle des vacances de Pâques. Et d'une certaine manière, les leçons là qui vont suivre ces dernières leçons vont être d'un caractère différent de celles que nous avons eues jusqu'alors. Celles que nous avions eues consistaient en un examen de l'histoire de l'anthropologie, mais de l'histoire de l'anthropologie vue d'un point de vue particulier, c'est-à-dire du point de vue des implications que les différentes théories psychologiques et que les différentes théories anthropologiques avaient, les différentes implications psychologiques que les différentes théories anthropologiques avaient. Et en faisant cela, en examinant, si vous voulez, l'implicite psychologique qui sous-tendait les théories anthropologiques, nous avons pu les mettre côte à côte, les critiquer et d'une certaine manière avancer en utilisant des avances psychologiques pour comprendre les phénomènes qui ont toujours intéressé les anthropologues, c'est-à-dire les phénomènes qui font que les êtres humains sont à la fois le produit de l'histoire et le produit de l'histoire humaine et le produit de l'histoire naturelle qui a créé le genre de cerveau, le genre de système nerveux qu'il possède. Comme, en fin de compte, la question peut-être centrale de l'anthropologie est la combinaison de ces deux phénomènes. Donc, d'une certaine manière, ce que j'ai essayé d'examiner, c'est quels sont les éléments constitutifs qui produisent les phénomènes que l'anthropologue trouve sur le terrain quand il voit un endroit, quand il va à un endroit particulier, à un moment particulier, dans une culture particulière, à un moment d'histoire particulier. C'est-à-dire, si vous allez quelque part et que vous essayez de comprendre pourquoi les choses sont comme cela, ou de les décrire, parce qu'il est impossible de les décrire sans essayer de les comprendre, une réflexion. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est, si vous voulez, quelque chose qu'on pourrait appeler une étude du bas vers le haut. Du bas vers le haut dans le sens qu'elle étudie quels sont les éléments qui produisent les phénomènes spécifiques que nous rencontrons à un endroit, à Madagascar, un peu en France, où vous voulez, et qui peuvent expliquer ce qui a été produit. Mais ce que je veux faire dans les leçons qui suivent, c'est d'une certaine manière l'opposé. C'est-à-dire d'essayer de comprendre, de prendre comme point de départ ce que nous trouvons à un endroit particulier, à un moment particulier, le genre d'endroit où un anthropologue qui veut faire une étude se trouve. Et alors, naturellement, il est face à une surface construite par toute une série de mécanismes, un peu les mécanismes dont on a parlé. Mais ce que je voudrais suggérer, c'est que d'essayer de réfléchir du haut vers le bas, de faire ce qu'on appelle quelquefois du reverse engineering, de l'ingénierie à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu de imaginer comment on pourrait construire un poste de radio, on prend un poste de radio et on se dit, tiens, comment est-ce qu'il a été possible de l'avoir construit? On l'examine pour reconstruire dans l'imagination les processus qui ont produit ce phénomène. Et alors, ce que je veux faire dans ces dernières leçons, c'est prendre comme point de départ la surface, ce que trouve l'anthropologue sur son terrain, et comment, en fin de compte, il peut corriger des interprétations qui pourraient être fausses, ou même approfondir sa compréhension en prenant en compte les théories psychologiques qui me paraissent nécessaires pour vraiment apprécier ce que nous avons devant nous. Alors, l'anthropologue qui va sur le terrain à un endroit particulier rencontre naturellement beaucoup de choses, mais parmi les choses qu'il rencontre, les phénomènes qu'il rencontre, sont les mots. Les mots ont toujours eu une importance absolument critique pour les anthropologues, parce que ils ont eu souvent l'impression que s'ils comprenaient les mots utilisés par les gens qu'il étudiait, il aurait fait un pas immense, même presque un pas suffisant pour avoir fait ce qui est appelé une ethnographie, c'est-à-dire une interprétation explicative de la manière dont les gens agissent à l'endroit où ils se trouvent. Et ce genre de théorie se trouve dans énormément de travaux d'anthropologie, mais souvent peu examinés. La raison pour laquelle les anthropologues considèrent l'examen de mots particuliers qu'ils trouvent sur le terrain comme étant probant pour la compréhension de ce que les gens font, est basé sur une présupposition extrêmement simple, souvent peu examinée, mais qui, à mon avis, est profondément hasardeuse, qu'il y a un équivalent entre les concepts et les mots. Qu'est-ce que sont que les concepts ? Je vais en parler beaucoup plus au cours de cette leçon, mais comme point de départ, on peut dire que les concepts sont des éléments de la pensée, des espèces de petits morceaux de la pensée. Le genre d'idée que sous-tend beaucoup d'anthropologie est quelque chose que nous, par exemple, nous pourrions rencontrer dans les travaux d'un anthropologue bien connu français comme Marcel Mauss, quand dans l'essai sur le don, il prend le mot maori hao, il essaye de nous expliquer ce que ce mot veut dire, et il glisse immédiatement à la supposition que quand nous avons bien compris ce mot, à la manière que quelqu'un qui écrirait un dictionnaire l'écrirait, nous comprenons quelque chose qui organise la pensée des Maoris. Nous trouvons ce genre d'idée aussi chez l'anthropologue britannique Evans Pritchard. Si vous regardez un livre d'Evans Pritchard, comme un livre très connu qu'il a écrit, Nuer Religion, la religion des nuaires, je vais peut-être écrire son nom. Vous verrez que ce qu'il fait dans ce livre, c'est qu'il prend une série de mots nuaires, les mots qui sont rapidement traduits comme péché, Dieu, esprit, etc. Et il les explique, presque chaque chapitre est l'explication d'un mot, et que quand on a expliqué cette douzaine de mots, on a donné plus ou moins un compte-rendu de la religion des nuaires. Nous retrouvons aussi ce genre d'idée tout à fait au commencement de l'anthropologie, surtout dans l'anthropologie de la parenté, où un auteur comme Morgan, le fondateur plus ou moins de l'anthropologie moderne américaine, considère que s'il donne une liste des termes de parenté utilisé par un groupe particulier. Il a là le cadre de la manière dont les gens divisent les parents, car si on utilise un mot, par exemple, disons le mot oncle en français pour désigner le frère de la mère, le frère du père, le mari de la sœur du père, etc. Tous ces gens-là sont considérés comme étant le même genre de personne. Donc ce mot indique un concept, et si nous étudions les différents systèmes de parenté, nous avons un espèce de système qui coupe, qui organise les gens selon certains concepts. Ce genre d'idée est repris par Lévi-Strauss, sans beaucoup de questionnements, c'est repris très récemment par Maurice Godelier, de la même manière, sans se poser beaucoup de questions. Et même les anthropologues ont tendance à critiquer ceux qui disent, ben vraiment, alors prenons l'exemple du mot oncle. Imaginons que nous sommes un anthropologue venant d'un pays où il y a une grande différenciation entre les frères du père et les frères de la mère. Ce serait une très grosse erreur de dire le vrai sens du mot oncle en français est frère de la mère, et que c'est une extension d'utiliser ce même mot pour frère du père. Pourquoi est-ce que ce serait une erreur? Ben parce que ça serait imposer un système venant d'une autre culture, comme si ce système venant de cette autre culture était la base de notre propre système. C'est évident que ça serait une erreur, ça n'est pas le sens du mot français « oncle ». Mais c'est surtout dans l'autre sens que ce genre de critique a été faite. Par exemple, Malinowski a suggéré que dans toutes les cultures, la famille nucléaire était à la base de la manière dont les gens pensaient, et que donc, quand le même mot était utilisé pour son propre père et pour des parents éloignés, comme par exemple le fils du frère d'un grand-père, c'était une extension, une espèce de métaphore, tandis que le vrai sens était le père biologique. Alors les anthropologues ont toujours tendance à dire, c'est ce qui est souvent dit dans les cours de première année en anthropologie, non, vous voyez, Malinowski, c'est quelque chose qu'a dit toute une série d'anthropologues, non, Malinowski a fait une erreur, il a pensé en nos termes à nous, en disant ce mot de ces pays d'Océanie veut vraiment dire ce que nous voulons dire par le mot père, et que donc s'il l'utilise pour d'autres parents, c'est une extension. Ça, c'est une erreur, parce que simplement le mot veut dire tous ces gens. Alors, je vais revenir sur cette remarque, mais ce que je voudrais simplement souligner, c'est que dans ce genre de raisonnement absolument typique de l'anthropologie, il y a une supposition qu'il y a une correspondance entre les mots et les concepts. Parce que le mot « père » est utilisé, disons, prenons en malgache, est utilisé tout autant pour son propre père que pour le frère de sa mère ou le frère de son père. Est-ce que cela veut dire qu'il y a un concept père qui inclut également tous ces différents parents? Rappelez-vous simplement à ce stade de mon raisonnement, d'un point simple, que si vous examinez les travaux des anthropologues, ils présument extrêmement facilement et avec beaucoup d'insistance que les mots sont une indication, que le sens lexique des mots utilisés à l'endroit où ils font leur étude sont une indication des concepts qui organisent les actions et la pensée des gens qu'ils étudient. Il y a donc une correspondance exacte entre mots et concepts, quelque chose que nous retrouvons chez beaucoup de philosophes aussi, et dans beaucoup d'autres disciplines. Mais un moment de réflexion pourrait vous faire douter de cette correspondance exacte et simple. Prenons quelque chose qui n'est que trop familier pour ceux de nous qui ne sont plus très jeunes. Nous avons souvent l'expérience de, par exemple, savoir très bien ce que c'est que les petites lumières bleues qu'on trouve au-dessus des voitures, de certaines voitures, qui clignotent et on sait très bien qu'il faut les éviter quand ils veulent aller très vite. Mais on ne retrouve plus le mot gyrophare. Donc on a, juste dans ce moment d'expérience, nous avons le sentiment brusquement que nous avons le concept, mais nous n'avons pas le mot. Quelque chose qui est bien connu. Mais beaucoup plus important, est le fait que si nous réfléchissons à propos des enfants, il est tout à fait le genre de théorie qui suppose que les concepts et les mots vont ensemble voudrait dire qu'un enfant qui n'a pas encore appris à parler n'aurait aucun concept, vivrait dans une espèce de soupe indifférenciée qui l'attend d'apprendre des mots pour organiser son existence d'une manière qui n'est pas simplement aléatoire. Et ceux de nous qui connaissons les enfants, un enfant d'un an qui normalement ne parle pas, nous savons que cela est totalement faux. C'est totalement faux d'ailleurs pour une autre raison. Parce que si nous posons la question comment est-ce qu'un enfant peut apprendre le sens d'un mot, il est assez évident qu'il ne peut pas simplement l'apprendre de zéro. Si on lui montre quelque chose, si on lui dit ourson, pour qu'il comprenne ce mot, il faut qu'il attache le son à une idée qu'il a déjà avant. Sinon, comment est-ce qu'il pourrait apprendre un mot comme cela? D'ailleurs, un exemple philosophique qui a souvent été donné, qui vient du philosophe américain Quine, qui nous parle d'une expérience de pensée un peu bizarre pour beaucoup de raisons. Et alors, lui imagine ses anthropologues, il imagine non seulement, imagine un anthropologue qui va chez un peuple au sujet duquel il ne sait rien et personne ne sait rien, et il essaye d'apprendre leur langue. Et il imagine la situation que ces gens-là indiquent un petit animal qui court par là. Et alors, la question que se pose Quine est comment est-ce qu'on peut savoir que quand ils indiquent ça, l'animal, et qu'ils disent coin, comment est-ce qu'on peut savoir que coin est un lapin, que ça ne veut pas dire oreille, que ça ne veut pas dire vite, que ça ne veut pas dire marron, etc., etc., etc. Il faut que, c'est le genre de situation où se trouverait un enfant, il faut que l'enfant ait déjà le concept pour pouvoir apprendre les mots. Et cela veut dire une autre chose qui est beaucoup plus importante pour nous en tant qu'anthropologues. Cela veut dire que le concept, en tout cas les concepts de base que l'enfant utilise, doivent être formés sur des bases autres que la communication avec autrui. En tout cas, en partie autrement que la communication avec autrui. En tout cas, la communication linguistique avec autrui. Que donc, pour avoir le concept ourson, mais prenons plutôt, disons, le concept nat, qu'un enfant malgache, dans le genre d'endroit où j'ai fait des études sur le terrain, comment est-ce que l'enfant peut créer ce concept? Il ne peut le créer que dans une interaction pratique avec les nattes, en observant ce que les autres gens font avec les nattes, peut-être en utilisant ses capacités innées qui lui permet déjà d'avancer vers le concept nat, que donc c'est la formation de base des choses les plus importantes autour de lui est faite entièrement en dehors de la communication linguistique, et que la communication linguistique donne des étiquettes à ce qu'il sait déjà. Donc, au lieu que d'apprendre les mots organise votre monde, comme le pensent souvent les anthropologues, le monde est déjà en grande partie organisé, et ensuite, c'est cela qui permet de comprendre le sens à attacher à certains sons que l'on reconnaîtra dans la communication avec autrui. Et si vous pensez à cela plus loin, cela veut dire qu'une espèce de que nous avons déjà des limites extrêmement fortes sur ce que pourrait être une culture. Une culture ne peut exister qu'en termes qui se lient avec le monde comme il existe, ou plutôt avec le monde comme il existe, comme il peut être pensé, avec le genre de cerveau que nous possédons. Cette simple observation donc que, à un certain point, les concepts doivent exister avant les mots, invalide toute une série de théories anthropologiques fortement culturalistes. Mais, ayant dit ça, nous devons nous poser une question sur en quoi consistent ces concepts, et nous devons également examiner de plus près quel est l'effet d'apprendre d'abord que les nattes sont nommées par un tel mot, et ensuite de continuer à communiquer avec des gens à l'aide des mots, quelle est la relation indirecte, car nous avons vu que nous avons une relation indirecte entre les mots et les concepts. Et là, certaines réflexions en psychologie ont transformé les manières traditionnelles de penser ce que sont les concepts. Les anthropologues, comme d'ailleurs le public en général, avaient tendance à penser que les concepts étaient, comme je vous disais, une espèce de système, de grille qui organisait notre compréhension du monde dans lequel nous vivions. Cela est très très bien expliqué par l'anthropologue Ward Goodenough, un Américain, qui d'ailleurs dans une critique de l'anthropologie sociale britannique, disait que le travail de l'anthropologue, c'est de comprendre, si un anthropologue veut étudier un match de football, il faut qu'il comprenne la définition des rôles des différents footballeurs avant que le jeu commence, qu'est-ce que c'est qu'un but, comment est-ce qu'on marque un but, qu'est-ce que c'est qu'un ballon, qu'est-ce que c'est que d'être un avant, etc., etc., etc. Qu'il fallait comprendre cela parce que cela donnait la grille il y avait la grille, ensuite il y avait le jeu. Et il critiquait les anthropologues britanniques en disant qu'ils étudiaient le jeu en pensant qu'on pouvait commencer déjà à comprendre le jeu, le mouvement que nous avions dans un match de football, si nous n'avions pas d'abord compris la grille formelle qui définissait les concepts qui organisaient le jeu de football. Mais cette idée que les concepts sont des définitions fixes, claires, et que d'une certaine manière, le travail de l'anthropologue est de retrouver ces définitions, de donner une liste de caractéristiques suffisantes et nécessaires pour dire que quelque chose est un lapin et pas un chien. Il faut trouver exactement quelles sont les caractéristiques qui font qu'un lapin est un lapin et pas un chien dans une culture et que ça pourrait être différent dans une autre. Le genre d'idée qui était à la base des idées que l'étude de la terminologie de la parenté pouvait être un guide sur ce qu'était la parenté. Ce genre d'idée a souffert énormément du développement sur ce que sont les concepts qui ont commencé en grande partie avec les travaux d'une psychologue très proche des anthropologues, Eleanor Roche, qui a développé ce qu'elle a appelé la théorie des prototypes. Je crois que la manière la plus simple de vous donner une idée de ce qu'était la théorie des prototypes et de donner un des premiers exemples qu'elle a donné à propos des oiseaux. On pourrait penser, en tant qu'ethnologue, que le travail, que si nous étions un anthropologue venant d'un autre pays, ça serait de dire, si nous voulons donner une description du concept oiseau, disons dans la culture française, il faudrait mettre une liste des caractéristiques des oiseaux, qu'ils volent, qu'ils pondent des œufs, qu'ils ont des becs, etc., etc. On pourrait faire une liste. Et alors, pour savoir si dans la culture française quelque chose est un oiseau ou pas un oiseau, on pourrait dire, bon, il a un bec, il vole, il pond des œufs, oiseau. S'il ne pond pas des œufs, pas oiseau. S'il ne vole pas, pas oiseau. S'il n'a pas de bec, pas oiseau, etc. Et vous voyez que déjà, nous sommes arrivés assez rapidement à un problème que, en fin de compte, nous appelons oiseaux beaucoup d'animaux qui ne volent pas. Et prenant toutes les caractéristiques que j'ai obtenues, vous verrez que ça ne marche pas exactement. Mais ce qu'elle a remarqué, c'est que si on montrait sur un écran des images de différents animaux et qu'on demandait aux gens d'appuyer un bouton qui disait oui ou un bouton qui disait non devant une image. Si on leur montre un crocodile, ils disent pas oiseau, ça, ils n'ont pas d'hésitation. Mais et si on leur montre un rouge-gorge, ils disent oui, pas d'hésitation. Mais si on leur montre une autruche, ils mettent beaucoup plus longtemps à appuyer sur le bouton oui que si on leur avait montré un rouge-gorge. Et même si on leur montre un aigle, ils mettent plus longtemps qu'un rouge-gorge. Ce qui suggère qu'en fin de compte, le concept n'est pas défini avec des limites claires, mais qu'au contraire, qu'il est organisé autour d'un centre typique et que donc, en fin de compte, la manière dont le concept qui se rapproche au mot oiseau existe dans la tête des gens, c'est que les animaux sont plus ou moins oiseaux. Alors, rappelez-vous de la discussion entre Malinowski et les anthropologues. Les anthropologues critiquaient Malinowski qui disait que si le même mot est utilisé pour mon père et pour le frère de mon père, les anthropologues qui critiquaient Malinowski disaient c'est une grosse erreur, il n'est pas possible que son propre père soit plus corresponde plus au mot utilisé pour qui est normalement traduit par père que le frère du père. Mais si en fin de compte les concepts n'ont pas de limites claires, ce genre de possibilité devient à nouveau ouverte, qu'en fin de compte les concepts pourraient être, il est possible que, de la même manière que le rouge-gorge paraît être le centre de la notion oiseau dans la pensée américaine, le propre père, avec lequel, ou en tout cas les hommes de la génération supérieure avec qui on est élevé, pourraient être le prototype pour la notion indiquée par le mot dans cet autre pays. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais le raisonnement qui était utilisé contre le genre de proposition à la Malinowski ne devient plus nécessairement valable. Et cela a aussi beaucoup d'implications pour l'anthropologie, pour une anthropologie beaucoup plus classique. Par exemple, mon collègue Jonathan Parry s'est intéressé à une controverse qui avait eu beaucoup d'importance dans l'anthropologie de l'Inde à propos des, et alors là je reprends les termes de cette controverse, de la relation entre pollution et la non, que quelque chose est non auspicieux. Parce que, d'une certaine manière, certains disaient que quand quelque chose est polluant, ça doit être, c'est le même concept que de non auspicieux, ou c'est quelque chose, ou d'autres disaient ce sont deux choses complètement séparées. Toute cette discussion était donc en termes de concept, quel est le concept de la pollution en Inde, qu'est-ce qui définit la non-auspicion, comment on pourrait dire, auspicieux, c'est quelque chose qui porte chance, ou porte, quoi, je ne sais pas comment on dirait, disons, il y a deux mots dans les langues indiennes, un pour quelque chose qui porte malchance, si vous voulez, disons ça, et un pour quelque chose qui est polluant. Et alors, les anthropologues de l'Inde se cassaient la tête pour savoir est-ce que ce sont deux mots pour le même concept ou pas. Si c'est pas, comment est-ce qu'il y a une relation entre les deux ou pas? Comment est-ce qu'on pourrait établir ça d'une manière bien claire, bien catégorique? Ce que Parry a fait remarquer, c'est que si on demande aux gens, donnez-moi un exemple de quelque chose qui porte malchance, dans les cultures, dans les cultures rurales indiennes, ils répondent presque toujours avec le même exemple. Les veuves. Les veuves, la présence d'une veuve est quelque chose qui est une indication de malchance. Il y a beaucoup d'autres choses qui vous diront oui aussi, ça porte malchance. Mais quand on leur demande simplement comme ça, ils disent les veuves. Si on leur demande qu'est-ce qui est polluant dans les cultures hindoues, ils disent le cuir. Et alors, quelle est la relation entre le cuir et les veuves? Alors, on pourrait dire pas beaucoup, mais c'est comme ça que la plupart des Indiens répondraient. Donc, cela mènerait à dire, bon, ben, ces deux choses sont séparées. Mais énormément de choses portent malchance et aussi sont polluants, alors c'est pas trop clair. Et ce que fait remarquer Parry, c'est que si on utilise une théorie des prototypes à propos des concepts, il n'y a pas de raison de vouloir être absolument clair. En fin de compte, la nature de la manière dont on pense à ces sujets n'est pas claire. Il y a des choses, il y a des centres, si vous voulez, des concepts, et d'autres choses qui sont vaguement associées à ces centres, pas nécessairement de la même manière, qui associent une idée extrêmement vague, floue, de qu'est-ce que c'est que la pollution, qu'est-ce que c'est que la malchance. Alors, si cela est vrai, un anthropologue, un ethnographe, qui veut donner une description de la culture indienne en étant précis à propos de la malchance ou de la pollution, doit être précis en n'étant pas précis. S'il veut préciser au-delà de la précision de la manière dont c'est pensé dans une culture indienne, en fin de compte, il fait simplement une erreur. Et la tendance à penser que les concepts sont des choses précises dont le travail de l'anthropologue est de bien les définir mène simplement à une fausse description. Donc, de prendre en compte la théorie des prototypes a un effet direct dans la manière dont l'ethnographe qui veut décrire comment est la société indienne commence son entreprise. Et ayant déjà ayant déjà souligné la présence de la prototypicalité de certains concepts, d'autres informations venant des travaux des psychologues sont aussi extrêmement intéressantes pour la manière dont l'anthropologue écrirait son ethnographie. Revenons maintenant sur la question des termes de parenté, quelque chose qui a beaucoup intéressé les anthropologues. Et je voudrais attirer votre attention à une étude d'un psychologue du développement cognitif, Frank Kyle, qui d'ailleurs s'est intéressé à beaucoup de choses, beaucoup d'aspects des concepts, mais qui ne s'intéresse pas du tout à l'anthropologie, mais qui, par hasard, dans ses études, a pris un exemple qui est exactement le genre d'exemple qui intéresserait les anthropologues. Il a essayé d'étudier comment les enfants comprenait le mot « oncle », ou plutôt « uncle », parce que c'était en anglais. Et là, il a remarqué un phénomène qu'il souligne dans toute une série de domaines, que les enfants, au fur et à mesure de leur développement cognitif, transforment ce qu'ils comprennent par le mot « uncle », le mot « oncle », ce serait pareil, je suis sûr, en français. Parce que si on demande à des enfants très jeunes « qu'est-ce que c'est qu'un oncle ?», ils vous donnent des réponses du genre « un oncle, bah, c'est un vieux monsieur, il a des moustaches, quelquefois il a des pantalons marrons, ce genre de description. Ce genre de description, et ça je vais revenir, peut être basé sur son oncle, ou même sur une idée plus générale que se fait l'enfant du genre de personne qui est un oncle. Par contre, si on demande à un enfant plus vieux, disons un enfant de 12 ans, qu'est-ce qu'est un oncle, il vous répondra probablement, surtout s'il est scolarisé, qu'un oncle, c'est un frère de ma mère ou de mon père. Probablement, il oubliera les époux, d'ailleurs, des frères et des sœurs de mon père et de ma mère. Donc, il y a une espèce de transformation qui a lieu dans la nature des concepts. Et alors là, je simplifie le propos de Kyle. Passant de la prototypicalité à la définition. Au cours du développement cognitif, l'enfant comprend le mot uncle, d'abord en l'attachant à un concept fortement ancré autour d'un prototype, et au cours de la communication avec autrui, fort probablement le transforme en une définition qui ressemble beaucoup plus à la conceptualisation classique des concepts. Et d'ailleurs, comme le suggère Kyle, et je suis sûr qu'il a raison, ce processus n'est pas uniquement typique des enfants, mais est la manière dont on apprend, dont on comprend tout ce qu'on apprend de nouveau, tous les mots qu'on apprend de nouveau, qu'on est donc dans un processus de redéfinition, non seulement, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire simplement le sens des mots, mais la nature de la relation entre les mots et les concepts. Donc nous devrions penser à une espèce de processus de transformation qui a lieu au cours de la vie. Et alors, si nous revenons à la controverse entre Malinowski et les autres anthropologues, peut-être que ni l'un ni l'autre n'ont raison, que nous parlions de différentes personnes qui interprètent, qui sont en train de transformer, peut-être à tout moment, peut-être dans les deux sens, la relation entre les mots et les concepts, et qu'il n'y en a ni l'un ni l'autre qui est vrai. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de la notion de concept en tant qu'étant organisé autour d'un prototype. Mais depuis assez longtemps, on commence à se rendre compte que ce qu'on l'on veut dire par ce centre est assez vague et même assez varié. Il est possible que le prototype ait ce qu'on pourrait dire le meilleur exemple. Revenons à l'exemple de l'oncle. Il est possible que l'enfant commence à comprendre le mot « oncle » en pensant à l'oncle Jacques qui vient deux fois par semaine à la maison dîner. Et que donc c'est pour ça que nous avons une description que les oncles sont des gens qui ont des chaussures marron et des moustaches. Mais il est aussi possible que pour certaines catégories, que pour certains mots, la relation est beaucoup plus reliée aux connaissances modulaires dont j'avais parlé dans les autres leçons avant les vacances de Pâques. Un exemple qui paraît particulièrement intéressant serait les mots qui indiquent des catégories naturelles, par exemple les gens. Et alors là, nous trouvons que toute une théorie semble être ce qui forme le prototype, ce qui forme le concept. Par exemple, si nous posons la question, une question très classique, est-ce que le pape a des poumons? La plupart des gens donneront en réponse à cette question, vous trouveront un peu bête, question assez bizarre de poser une question, est-ce que le pape a des poumons, peut-être impertinente, mais si on dit, bon, répondez-moi, ils diront, ben oui, il a des poumons. Alors pourquoi est-ce que le pape a des poumons? La raison est assez évidente, le pape est un être humain, on sait que les humains ont des poumons. Mais cela veut dire que il n'est pas tellement évident qu'est-ce qu'était le concept de pape. Il y avait toute une série d'autres théories associées au fait que le pape est un être humain, que nous, dont nous ne sommes certainement pas conscientes. Je devine qu'aucun de vous a réfléchi au sujet que le pape avait des poumons. Mais que, en utilisant le mot pape et en évoquant les concepts qui sont associés avec le mot, toute une série de théories sont là potentiellement utilisables. Pour, si nous sommes dans une nouvelle situation, par exemple, face à quelqu'un qui nous demande la question « Est-ce que le pape a des poumons ?», que nous pouvons utiliser pour avancer notre compréhension. Cela paraît particulièrement le cas pour, par exemple, les espèces naturelles comme les êtres humains. Si on demande une série de questions à des très jeunes enfants à propos des animaux, nous voyons qu'ils font ce genre d'inférence. Donc, ce qui a été suggéré par un nombre de psychologues, en se basant d'ailleurs sur toute une série d'expériences, est que le prototype n'est pas, en tout cas dans beaucoup de cas, n'est pas nécessairement un exemple particulier, mais une espèce de nœud de théorie reliée entre elles. Revenons sur l'exemple de la pollution. Pourquoi est-ce que si le cuir paraît être souvent un prototype de pollution, nous voyons qu'il y a, quand nous essayons d'étudier pourquoi les gens à l'intérieur de la culture indienne répondront que toute une série d'autres choses sont polluantes, nous trouverons que, par exemple, des choses qui sont associées avec la mort ont tendance à être polluantes, parce qu'après tout, le cuir est associé avec la mort. D'autres choses qui sont en contact avec les excréments, car le cuir pour être est en contact avec les excréments dans la manière dont il est traité. D'autres produits d'animaux, surtout d'animaux de bovins, qui sont liés à la religion hindoue, sont polluants. Donc, nous voyons que autour de ce prototype du cuir, toute une série de théories se rejoignent, font une espèce de nœud qui explique le genre de choses qui sont polluants. Et cela permet aux gens de répondre à des questions. Si on leur demande une question, est-ce que vous considérez telle matière comme étant polluante, une matière dont ils n'ont jamais entendu parler ou ils n'ont jamais pensé en ces termes, ils arriveront à raisonner, dire ouais, c'est, peut-être que c'est polluant, oui, ça doit être polluant ça. Donc, pour arriver à ce genre d'inférence, ils utilisent les théories sous-jacentes qui sont reliées autour des prototypes. Et remarquez que ces théories peuvent être différentes. Donc, il pourrait dire, d'ailleurs c'est le cas, qu'utiliser la corne est aussi polluant parce que c'est un produit d'animaux morts. Mais aussi, il pourrait associer par exemple, si on demande aux gens est-ce que des sandales fabriquées en étoffe sont polluants, ils ont tendance à dire oui. Parce que c'est un peu comme les chaussures, qui sont souvent faites en cuir, etc. etc. Donc il y a toute une série de théories reliées qui permettent des inférences, des réflexions. Et les mots qui se lient à cuir ne sont qu'une espèce de relation extrêmement indirecte avec cette espèce de réseau peu clair que les mots indiquent. Et que donc, d'une certaine manière, le travail de l'anthropologue n'est plus du tout de définir toute une série de catégories bien claires qu'on pourrait mettre en opposition les unes avec les autres à la manière des structuralistes, mais qu'au contraire, nous avons un travail beaucoup plus compliqué quand nous voulons expliquer la culture des gens que nous étudions, qui est d'essayer de démêler les théories embrouillées qui permettent aux gens de faire toute une série d'inférences complexes. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là avant de reprendre ce thème d'une manière un peu différente la semaine prochaine. Le séminaire qui va suivre sera adressé par deux psychologues suisses qui s'intéressent beaucoup à l'anthropologie et à la sociologie, Fabrice Clément et Laurence Kaufmann. dans une demi-heure, de la même manière que les autres fois. Merci.